Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir. Des pyramides auraient-elles été créées au cœur de la Bosnie par des groupes illyriens qui vivaient dans cette région entre 12 000 ans et 500 ans avant notre ère? Assurément non. Véritable objet de fantasme, les pyramides sont aujourd'hui au cœur de notre Salon Noir. Notre témoin, Jean-Pierre Adam, grand spécialiste de l'architecture antique au CNRS, qui combat depuis des années toute imposture dont l'archéologie pourrait être l'objet. Jean-Pierre Adam, bonjour.
Bonjour.
L'Égypte antique fascine, il tient une place tout à fait à part dans l'imaginaire de nos concitoyens, peut-être aussi dans la vôtre, puisque vous travaillez sur un chantier à la recherche de ce brillant passé plurimillénaire.
Je dois avouer que, comme tout être humain qui a un minimum de bagage culturel, historique, archéologique, j'ai toujours été fasciné par la civilisation égyptienne en général. Je ne sais pas si ce sont les pyramides qui m'ont attiré en Égypte. D'abord, c'est ma profession qui m'y a conduit. Mais d'abord, parce qu'il y a tellement de merveilles en Égypte que personnellement, j'en trouve ailleurs que dans les pyramides et d'infiniment plus complexes et plus riches. Néanmoins, il est assuré que de toute l'histoire de l'humanité, les réalisations les plus universellement connues, les plus universellement admirées, celles qui suscitent le plus grand nombre d'interrogations, sont incontestablement les pyramides d'Égypte. Il n'y a pas l'ombre d'un doute à cet égard. Pourquoi cette fascination? Elle a de multiples causes que nous connaissons tous. Les Grecs s'emparent de l'Égypte avec Alexandre. Et les premiers, évidemment, ils répandent cette idée que les Égyptiens ont réalisé des édifices comme l'humanité n'en avait jamais édifié. Et le concept même des sept merveilles du monde est né dans la bibliothèque d'Alexandrie, enfin on devrait dire l'université, le muséion. Ce sont des Grecs, et c'est un conservateur de cette bibliothèque, probablement Callimaque, qui crée ce concept de sept merveilles insurpassables qui devront servir de stimulant à la fois aux bâtisseurs et à l'imaginaire, parmi lesquels figurent les pyramides de Gizeh, qui seront qualifiées par l'un des auteurs des sept merveilles du monde de montagnes bâties sur des montagnes. Mais il y a d'autres raisons. Il y a donc cette publicité faite par les Grecs. Les architectes de l'Antiquité connaissaient tous les pyramides. Et puis arrive la Bible. Notre connaissance de l'Égypte, notre contact avec l'Égypte pratiquement jusqu'à Champollion, c'est la référence biblique. Mais il est tout de même intéressant de voir que si les pyramides étaient connues des pèlerins qui transitaient par l'Égypte, ils allaient voir les pyramides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un épisode intéressant de l'Histoire sainte, c'est la fuite en Égypte. Et un certain nombre de pèlerins s'efforçaient de retrouver l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte. Et ils transitaient par les pyramides. Mais chose extraordinaire, ces gens du Moyen-Âge, qui n'avaient aucune culture archéologique, ont cherché une explication pragmatique aux pyramides. Au lieu d'imaginer quelques fantasmes extraordinaires sur un sorcier, un magicien, un pouvoir magique des Égyptiens, ils ont cherché dans la Bible une explication, d'où cette explication étonnante. Les pyramides ont été bâties sur les conseils de Joseph, devenu conseiller de Pharaon, pour y engranger le blé en vue des années de vaches maigres. Donc ce Moyen-Âge que l'on taxe trop souvent d'imaginaires fantasques, de ressources vers le miraculeux, le magique, l'inexplicable, avait trouvé là une explication au contraire extrêmement rationnelle, inexacte mais extrêmement rationnelle. Et au contraire, l'époque contemporaine, elle, étrangement, a l'air de dériver de plus en plus vers des interprétations fantastiques.
Alors pourquoi parle-t-on tant de pyramides et de ces pyramides, et non pas de leur équivalent, pourrait-on dire, mésopotamien, les ziggourats?
L'explication appartient à ce que je viens de dire précédemment, et le fait est qu'elle domine, je dirais, pondéralement, leurs équivalents mésopotamiens ou d'Amérique andine, de Mésoamérique, je veux dire. Et d'autre part, il y a une certaine proximité. On se sent à la fois apparenté aux Égyptiens, donc on aimerait être quelque part héritier de cette culture fantastique, et en même temps très lointain. On sent qu'il y a une coupure telle que bien des voyageurs qui arrivent en Égypte disent « Mais on ne se raccroche à rien de connu, finalement, on croyait arriver dans ce qui sont les sources de la civilisation et on a l'impression d'arriver sur une autre planète. » Alors que lorsqu'on arrive dans le monde grec, égéen, romain, on a des images familières. On ne les a pas en arrivant en Égypte. Et puis, la Mésopotamie ne fascine pas de la même manière. La Mésopotamie, c'est le pays de la brique crue. Donc on voit des champs de ruines qu'on ne peut pas lire. Les ziggourats n'existent plus, elles existent dans l'imaginaire, dans les restitutions des archéologues.
Alors que dans la tour de Babel quand même.
La tour de Babel, c'est un trou dans lequel on lit, dans un espèce de fossé rempli d'eau, une forme carrée. La tour de Babel aussi est dans la Bible. Donc là aussi, on a une accroche biblique qui est intéressante, mais moins forte que celle des pyramides, parce que l'Égypte, c'est aussi le pays qui a inventé l'architecture de pierre. Et ça, ça pèse très lourd.
Alors je reviens à la Bosnie, puisque j'ouvrais l'émission sur ce sujet. Il faut avoir une pyramide pour être une grande civilisation ?
C'est à se demander si effectivement la pyramide n'est pas le critère, puisque on a vu surgir des pyramides ou des formes pyramidales un peu partout. Et non seulement on aimerait que les grandes civilisations aient eu ce concept architectural, mais on y voit volontiers la trace d'une contamination ou d'un contact avec une civilisation venue de l'espace. Parce que la pyramide s'élève très haut, donc elle est un signal, ce qui est une réalité d'ailleurs. C'est tellement vrai que la pyramide, comme l'obélisque dans ce même monde égyptien, c'est effectivement un signal qui doit être perçu par le monde du divin. C'est aussi l'escalier par lequel le roi, mort, mais non pas mort, est parti vivant dans une autre existence, va rejoindre le monde du divin. Et le monde du divin doit percevoir ce signal. Ça démarre avec la fumée du sacrifice, qui monte vers ce firmament où résident les dieux, en principe bienfaisants. Et le sanctuaire qu'on place en hauteur, là où se déroulera le sacrifice, la fumée sera encore plus proche des dieux. C'est ce que vont imaginer les Mésopotamiens et les Indiens d'Amérique, qui vont placer leur sanctuaire en haut d'une pyramide. Mais finalement, la pyramide du roi d'Égypte, qui est lui-même divinisé, procède de la même mentalité. Il se rapproche du monde du divin.
Il s'agit d'une forme parfaite dans laquelle de nombreux passionnés ont tenté de voir quelques chiffres sacrés.
Là aussi, le fait que l'Égypte ait inventé l'architecture de pierre lui donne une bonne longueur d'avance sur la Mésopotamie ou sur le Mexique. En effet, il est plus facile, facile étant pas tout à fait le terme adapté, mais néanmoins plus facile de réaliser des formes géométriques très rigoureuses avec de la pierre qu'avec de la brique crue ou de la maçonnerie, comme le faisaient les Mayas ou les Aztèques. Toute la science des Égyptiens, pendant longtemps, va se concentrer vers cette recherche, qui est une recherche pragmatique, appliquée, d'une géométrie la plus parfaite possible, pour que cette montagne sur la montagne soit d'une géométrie, d'une rigueur absolue et soit parfaitement perçue par le monde du divin comme étant bâtie par quelqu'un qui est leur équivalent. Et en réalité, la plus grande merveille des pyramides, ce n'est pas le fait que ce soit d'énormes tas de cailloux, car pour l'architecte, la structure des pyramides ne procède pas d'une discipline ni d'une science prodigieusement exacte. Ce ne sont effectivement que d'énormes tas de cailloux. Par contre, leur implantation, la rigueur de leur silhouette procède d'une démarche géométrique extrêmement rigoureuse, mais pourtant extrêmement simple. Ce sont toujours des formes que l'on réalise pour nous avec le compas et pour eux avec un cordeau. Le triangle 3-4-5, triangle égyptien, a permis de construire la pyramide de Khéphren qui est constituée de deux triangles 3-4-5 juxtaposés. C'est la plus parfaite des pyramides, à mes yeux. Celle de Khéops est un peu plus empoulée. Elle reproduit la pyramide de Meidoum, qui lui a servi de modèle, celle du père de Khéops, qui était Snéfrou, qui est la juxtaposition de deux triangles dits triangles dorés, mais qu'on obtient aussi facilement les traçant au cordeau. Donc, ce que nous transformons, nous, en valeur chiffrée arithmétique prodigieuse, 1,618, valeur du nombre d'or, ou 3,14 pour la valeur de pi, qui est la valeur, effectivement, du demi-périmètre de la pyramide divisé par sa hauteur, ça n'avait aucune importance aux yeux des Égyptiens, aucune signification. Ils ne les grillaient pas, ces chiffres, d'ailleurs, ils ne s'en servaient pas. Ce qui importe, c'était, effectivement, la rigueur d'un tracé géométrique.
Pourquoi parle-t-on toujours de la pyramide de Khéops ? D'ailleurs, il n'y aurait qu'une pyramide, Khéops.
Pourquoi parle-t-on toujours de Blériot et jamais de Latham ? Tout est là. Je sais qu'il y a eu un coureur du Tour de France qui, unique personnage de l'histoire de l'humanité, a été l'éternel second dont on a retenu le nom. Mais c'est exceptionnel. D'habitude, seul le premier a droit de citer. C'est aussi simple que ça. 3,50 m de différence en hauteur, c'est très peu de choses eu égard à la monstruosité de ces monuments. Et la pyramide de Khéphren vaut bien effectivement la pyramide de Khéops, comme celle de Dachour d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre explication.
De toute manière, ce n'était pas la première. Il y a une longue tradition de pyramides en Égypte.
Il y a effectivement plusieurs générations, mais c'est allé très très vite au regard de l'histoire. Puisque le premier à avoir bâti ou s'être fait bâtir une pyramide, c'est le roi de Djoser, dont on connaît le nom de l'architecte, Imhotep. C'est tout de même extraordinaire que le premier être humain qui n'était ni un dieu ni un roi, c'était un architecte. Il a eu son nom inscrit sous le socle de la statue du roi de Djoser. Il a eu l'idée de bâtir pour son roi un simulacre de la ville de Memphis pour l'éternité. Il allait régner pour l'éternité sur une ville de pierre qui durerait pendant tous les siècles de l'histoire de l'humanité, et il serait là pour veiller, aux côtés des dieux, à la lutte contre les forces du chaos. Donc on devait lui rendre un culte permanent, et cet édifice, plutôt cet ensemble monumental immense, qui avait une surface de 15 hectares, la même surface que la ville de Memphis, devait lui survivre, évidemment, jusqu'à la fin d'histoire, jusqu'à la fin des temps. Après quoi, tous les autres rois, naturellement, ont voulu, à leur tour, témoigner de la même manière de leur relation avec les dieux et se sont fait bâtir également des pyramides.
Nous parlions tout à l'heure de la numérologie, Jean-Pierre Adam. La numérologie est une discipline ardue, partant du postulat que tout est dans tout et réciproquement. Vous vous êtes concentré non pas sur un monument archéologique, mais un monument historique, une guérite de loterie nationale. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
L'intérêt, c'était de montrer qu'effectivement, en prenant le plus modeste des édicules, on arrivait à peu près aux mêmes conclusions que lorsqu'on divisait, multipliait, additionnait les valeurs chiffrées de hauteur, largeur, épaisseur, apothème, volume des pyramides d'Égypte. C'est-à-dire qu'on y trouvait tout ce qu'on voulait. Il suffit d'avoir au départ un certain nombre de résultats intéressants, date de la bataille de Marignan, formule du mercurochrome, et puis de combiner des valeurs arithmétiques, et on trouve toujours absolument tout ce qu'on veut. Tout cela pour dire que la numérologie, évidemment, est une des formes de bétification qu'on exploite, hélas encore aujourd'hui, et qui trouve sa place naturellement dans la pyramidomanie. Ça fait partie de ces perversions qui agitent les esprits des pyramidomanes.
Il y a une pyramidologie.
Il y a une pyramidomanie, plutôt, qui, effectivement, pour les raisons qu'on vient d'exposer rapidement, cette fascination, c'est un stimulant de la curiosité. La curiosité, c'est tout de même l'élément clé de toute démarche de recherche scientifique. Donc, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas trouver de solution. Donc, ils partent de l'imaginaire. Donc, ils inventent des mystères pour lesquels ils trouvent la réponse. Puisqu'ils trouvent la réponse d'abord, ils en font un mystère ensuite. Et on peut effectivement, de cette manière, trouver dans la pyramide absolument tout ce qu'on veut. C'est ainsi que notre modeste établissement, notre laboratoire du CNRS, il en est d'autres qui travaillent en Égypte, vous en doutez, a reçu en 2006, par exemple, 6 dossiers d'amateurs visionnaires qui avait tout compris, tout résolu sur les pyramides d'Égypte. Depuis le 1er janvier, j'ai déjà reçu 2 dossiers sur la pyramide de Khéops, toujours la pyramide de Khéops. Or, chaque année, nous recevons, âgés continus, de 4 à 10 dossiers sur la pyramide de Khéops. Ça fait, depuis le début du siècle, dans toute l'Europe, plusieurs milliers. Tous ceux que j'ai eus entre les mains procèdent de la même vanité, dont le principe consiste à nier tout témoignage archéologique. Donc, on balaye tout ce qui existe, toute la réalité connue, elle est déjà très lourde, et on part de l'imaginaire, ce qui permet de fabriquer un mystère et de le résoudre en même temps, bien entendu. Aucun de ces dossiers n'a fait progresser de l'épaisseur d'un poil de grenouille la connaissance sur les pyramides d'Égypte. Donc ce sont des impasses, on ne peut même pas dire, ce sont des hypothèses d'école et par élimination, on peut s'approcher du but. Non, ce sont des impasses. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on procède par élimination puisqu'on est dans le mur, on est dans le néant. C'est dire si on en vient statistiquement à dire tout nouveau dossier qui arrive dans notre bureau peut être éliminé d'office parce qu'on sait d'avance que c'est une ineptie.
Jean-Pierre Adam, l'ufologie, la science des soucoupes volantes, s'est aussi penchée sur ces pyramides ?
Ça ne pouvait pas manquer. C'est la petite nouveauté née dans les années 50, effectivement, et qui a toujours cours d'ailleurs, dans la mesure où certains de ces amateurs visionnaires veulent lier tous les problèmes angoissants, et notamment la cosmogonie. Même intéressant, les origines de l'humanité, et puis par voie de conséquence, l'origine des grandes civilisations et les grandes réalisations marquantes de ces grandes civilisations. On les trouve partout, ces extraterrestres. On les trouve aussi bien en Amérique précolombienne que dans le monde grec, songez à l'Atlantide, qui peut être éventuellement extraterrestre, que naturellement en Égypte. Et puis, il y a des secteurs qui échappent à la sagacité des extraterrestres. On ne les a jamais trouvés dans le sud-est asiatique. On ne les trouve pas encore. Il y a tout de même une réalisation extrêmement impressionnante qui pourrait effectivement procéder d'une technique extraterrestre. Et puis, on ne les trouve pas dans le Grand Nord. Pourquoi ? Bien qu'il y ait une tendance à une contamination de ce qu'on appelle la race blonde du nord de la Germanie, qui effectivement, à partir d'une espèce de secte belge qui s'appelle Kadat, qui voit volontiers là des extraterrestres qui auraient contaminé et appris l'essentiel des civilisations à ces gens du nord de l'Allemagne, du sud du Danemark. Et évidemment, les extraterrestres interviennent en Égypte, et notamment soit dans la construction des pyramides, soit pour les utiliser. Ils auraient dirigé les hommes pour en faire des balises, pour les diriger. Enfin, tout cela peut en effet trouver une autre réponse qui est l'Égypte stimulant de l'imaginaire. Et là, on part dans une bonne direction. En effet, un bon romancier, un bon cinéaste, un auteur de bande dessinée, tout le monde pense évidemment à Edgar Pierre Jacobs, peut tirer parti de ce qu'il y a d'intrigant, d'irritant dans ce que l'on ne sait pas de la civilisation égyptienne pour bâtir un scénario intelligent, bien documenté, crédible, naturellement. Le bon auteur de fiction doit être crédible. Et à ce moment-là, on applaudit. À partir du moment où on est dans le domaine du roman, de l'imaginaire pur, de l'imaginaire de talent, très bien et tant mieux si l'on utilise la civilisation égyptienne. On dirait même que c'est un hommage à cette civilisation puisqu'elle permet d'engendrer des œuvres où le fantastique donne à l'Égypte une avance prodigieuse sur le reste de l'humanité.
Oui, j'ai lu que, par exemple, que la hauteur de la pyramide de Khéops serait le milliardième de la distance de la Terre au Soleil. Qui prouve c'est le lien entre les deux.
C'est peut-être une ébauche pour aller sur le soleil, mais on s'est arrêté en cours de route.
Reste le véritable mystère de la pyramide, du moins celle de Khéops, la chambre secrète. Là aussi, certains archéologues y ont pris jeu.
C'est une faiblesse incontestable. Sans même parler de technique, la Grande Pyramide est déjà l'édifice le plus complexe intérieurement parlant. Trois réseaux de galeries, trois chambres. Imaginez un quatrième réseau clandestin est déjà tout à fait étrange. Mais surtout, il faut imaginer que ce chantier sur lequel travaillaient en permanence entre 10 000 et 12 000 personnes, dont des ouvriers qui voyaient bâtir la pyramide, tous les appareilleurs, les tailleurs de pierre qui construisaient, qui aménageaient ces réseaux de galeries et ces chambres funéraires, fait qu'il est hors de question de parler de secret. Tout le monde savait où se trouvait la chambre du roi, ou les antichambres, où se trouvaient les galeries, l'endroit précis où se trouvait l'entrée de la descenderie. Il n'y avait aucun mystère. Par contre, que les Égyptiens aient pris des précautions légitimes pour verrouiller les accès à la chambre du roi est tout à fait normal. Ce n'était pas un secret, parce que là encore, les ouvriers avaient mis en place les herses, les bouchons qui obstruaient les galeries, le parement qui devait cacher l'entrée de la descenderie, le temple du haut qui dissimulait l'accès de la descenderie. Tout cela était parfaitement connu, mais solidement verrouillé. Donc, imaginez en plus qu'une équipe d'ouvriers travaillant la nuit ait bâti très rapidement le même système de grands réseaux, y compris descenderie, chambre d'air, chambre secrète hein, dans la pyramide. C'est, comme on dit à Marseille, une fameuse couillonnade. Ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est même pas la peine de développer ce concept. Ça n'existe pas.
Toujours est-il que, munis d'appareillages, des gens ont percé, des scientifiques, ou non d'ailleurs, ont percé, foré, ont découvert parfois des zones remplies de sable,
oui,
par exemple.
Oui, ce qui a été révélé par soit la microgravimétrie, soit le radar, c'est simplement la confirmation de ce que, dès 1836, un certain colonel Weiss avait découvert, lui, en forant des trous, des puits, des galeries dans la Grande Pyramide. Il a noté dans son carnet, parce que lui cherchait aussi des chambres secrètes, il a noté qu'il rencontrait au cœur de la Grande Pyramide une maçonnerie très sommaire, très aléatoire, faite de moellons, très mal taillés, mal juxtaposés, des vides de construction remplis de sable, de chutes de taille. Ça veut dire qu'il y a effectivement des manques et des modifications dans la structure. Ça ne veut pas dire qu'il y a un réseau parallèle.
Jean-Pierre Adam, ne pensez-vous pas que vous nous empêchez de rêver ?
J'essaye tout au contraire d'attirer le public vers ce qu'il y a de merveilleux, parce que c'est la réalité égyptienne qui fait rêver. Ceux qui ont pu voir, par exemple, je ne sais pas, le grand temple enterré de l'Osiréon d'Abydos, c'est quelque chose de fantastique. Imaginez ce grand sanctuaire enterré avec ses gigantesques pierres, ce cosmos réduit en miniature avec cette île artificielle, tout ça au fond de la terre, accessible par une galerie de 120 mètres de longueur. Voilà le rêve. La réalité égyptienne est un rêve.
La discipline égyptologique est aussi une science sectaire qui n'accepte pas n'importe qui en son sein.
Il est un fait que il faut tout de même un certain bagage avant de pouvoir interpréter les découvertes de l'égyptologie. Dire que l'archéologie en général rejette les amateurs, c'est complètement faux, puisqu'au contraire, c'est avec l'astronomie la discipline qui reçoit le plus grand nombre d'amateurs. Et des amateurs qui deviennent alors des scientifiques à temps partiel. On sait qu'il y a des réseaux d'amateurs en astronomie qui sont inscrits dans des programmes de recherche internationaux et qui font progresser les connaissances. Donc oubliez ce cliché d'une science qui rejette les amateurs.
Autre point clé, récemment annoncé, les pierres de la pyramide de Khéops ne seraient pas des pierres ?
Je propose en effet d'y voir, ce n'est qu'une hypothèse, une pyramide construite en marshmallow. C'est plus léger à transporter et ça peut fournir de la nourriture pendant les temps de vaches maigres.
Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il y aurait eu des analyses, de la mince ?
Il s'agit d'analyses de quelqu'un qui manifestement ne connaît strictement rien à la géologie. Je connais les analyses géologiques qui ont été faites sur les pierres des pyramides. Il n'y a aucun doute à avoir, ce sont bien des pierres. Les analyses qu'on nous présente sont complètement bidonnées et le fait de gens qui ignorent complètement l'analyse des pierres calcaires notamment. Et surtout, toutes ces pierres portant des traces de taille, étant non jointives dès qu'on quitte les parements, prouvent, même pour un amateur non averti, que cette vision d'une pyramide moulée est une utopie complète.
Ça fait pourtant un grand bruit au mois de décembre, annoncé dans plusieurs revues.
Ça fait grand bruit parce que les gens ne réfléchissent pas et que l'odeur de scandale est une denrée marchande qui se vend très bien.
Alors la construction des pyramides témoigne-t-elle pour autant d'une technique qui demeure totalement incompréhensible ou inconnue ?
Loin de là. La plupart des sites des pyramides, d'abord, font l'objet de recherches égyptologiques depuis plus d'une quinzaine d'années. Ces connaissances ajoutent à ce que l'on savait déjà par l'observation un certain nombre d'inscriptions qui sont très précieuses. Les pyramides ne sont pas muettes, comme le croyait Mariette. Des inscriptions de chantier, très parlantes. Je ne vais pas les énumérer, mais on a des indications de mise en place de pierres. On a le nom des équipes, des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. On a le nom de chef d'équipe qui s'intitule « chef des tireurs de cordes », par exemple. Tout cela est très parlant. Ajoutez à cela l'iconographie sur les moyens utilisés, les rampes, les traîneaux. On cerne quelque chose, on sait que les rampes ont existé, qu'elles ne montaient pas jusqu'au sommet des pyramides, qu'il y avait des procédés beaucoup plus simples, comme l'a fait Marc Lenner à Gizeh, avec des leviers, on monte les pierres d'assise en assise au-delà du niveau supérieur des rampes. Donc on est proche d'une solution et on sait que cette solution était extrêmement simple. Il n'y a jamais eu de machine sur les chantiers des pyramides.
Jean-Pierre Adam, aujourd'hui, le Palais de la Découverte développe au travers d'une exposition trois de ces théories que nous venons de dénoncer.
C'est précisément la conclusion de ce qu'on vient de voir ensemble. Ces trois propositions sont toutes aussi nulles et non avenues l'une que l'autre. Elles proposent d'extravagantes machines qui sont aux antipodes du fonctionnement normal d'un chantier égyptien. Elles proposent les pierres moulées. Elle propose un système idéal de pierres qui seraient toutes bien taillées, bien assisées, partant d'une petite pyramide qui s'accroîtrait. Tout cela est absolument démenti par l'observation archéologique. Donc, c'est une exposition pour rien.
Qu'en pensent les scientifiques ? Le Louvre, par exemple ?
Les égyptologues sont évidemment navrés qu'une telle initiative ait été prise. Le Palais de la Découverte, c'est le musée de la science. Il a comme tutelle l'éducation nationale. Et il eût été plus sage auparavant de consulter les gens qui connaissent le problème.
Jean-Pierre Adam, que lire pour comprendre les pyramides d'Égypte aujourd'hui ?
Je dois dire que les maisons de la presse, les kiosques eux-mêmes, sans aller dans les grandes bibliothèques, je vous renvoie naturellement à la librairie qui se trouve sous le Louvre, par exemple, regorgent d'informations très claires où tout un chacun peut trouver les informations qu'il désire rencontrer avec des réponses extrêmement claires qui font un bilan et qui permettent de dire « Aujourd'hui, l'égyptologie ne sait pas comment on a construit les pyramides, mais elle sait à coup sûr comment on ne les a pas construites. »
Jean-Pierre Adam, merci beaucoup.
Merci.
La semaine prochaine, Corinne Castel du CNRS nous fera découvrir sa ville du troisième millénaire qu'elle vient de mettre au jour en Syrie. Rappelons que le Salon Noir a été réalisé par Gilles Mardi-Rossian et que le Salon Noir est aussi une coproduction France Culture sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie archétiste du ministère de la Culture.